La frontière et la propriété, un électorat divisé en quatre quarts. Résumons. Au cours des dernières décennies, la gauche électorale est devenue la gauche brahmane et est de plus en plus divisée entre un centre-gauche pro-marché et une gauche pro-redistribution plus radicale ou simplement moins droitière, suivant les perceptions. La droite électorale est quant à elle écartelée entre un centre-droit pro-marché et une droite nativiste et nationaliste. Au final, il est clair que c'est l'ensemble du système de clivage classiste et de structure politique gauche-droite de la période 1950-1980 qui s'est graduellement effondré et qui est en phase de recomposition. Or, nous allons voir en examinant le cas des différents pays que cette redéfinition des dimensions du conflit politique peut prendre différentes formes. On aurait bien tort d'interpréter ces évolutions de façon déterministe. Suivant les stratégies des acteurs, et en particulier en fonction des capacités de mobilisation politico-idéologique des différents discours, groupes sociaux et organisations politiques en présence, le système de clivage et les axes principaux le caractérisant pourrait évoluer de façon totalement différente. L'état du conflit politico-idéologique en France à la fin des années 2010 illustre à la perfection cette indétermination et cette profonde instabilité du système. Pour résumer, on peut dire que l'électorat est partagé en quatre quarts de taille approximativement équivalente. Un bloc idéologique, que l'on peut qualifier d'internationaliste égalitaire, un bloc internationaliste inégalitaire, un bloc nativiste inégalitaire et un bloc nativiste égalitaire. Cette décomposition est grossière, d'une part parce que la réalité du conflit politique porte sur beaucoup plus que deux dimensions, et d'autre part car chacun des multiples axes de désaccord comprend des positions et sous-positions subtiles qui ne peuvent se réduire à un point sur une droite. Cette catégorisation en deux axes principaux, la question de la frontière et la question de la propriété, permet néanmoins de clarifier les idées. Pour répartir l'électorat suivant les deux axes, on peut utiliser les réponses aux deux questions suivantes. La première question concerne l'affirmation « il y a trop d'immigrés en France ». En 2017, 56% des électeurs se disaient en accord avec cette opinion et 44% pensaient le contraire. Pour simplifier, j'ai regroupé les réponses « tout à fait d'accord » et « plutôt d'accord » d'un côté et « plutôt en désaccord » et « tout à fait en désaccord » de l'autre, en excluant les électeurs sans réponse, moins de 5% des cas. Au cours de la période 2000-2020, cette proportion a varié autour de 50-60% de personnes considérant qu'il y a trop d'immigrés en France depuis le début des années 2000, contre 40-50% pensant qu'il n'y a pas trop d'immigrés, en fonction notamment du cycle économique. Ainsi, la proportion d'électeurs anti-immigrés était de 61% en 2002, avant de s'abaisser à 49% en 2007, quand le chômage et le vote FN étaient au plus bas, puis de remonter à 51% en 2012 et 56% en 2017. La seconde question concerne la réduction de l'inégalité entre les riches et les pauvres. En l'occurrence, l'affirmation est formulée de façon délibérément agressive. Pour établir la justice sociale, il faut prendre aux riches pour donner aux pauvres. Par comparaison à une formulation plus douce, qui aurait recueilli l'approbation d'une vaste majorité d'électeurs, l'avantage de cette question est qu'elle découpe elle aussi l'électorat en deux moitiés de taille comparable. En 2017, 52% des électeurs considéraient qu'il fallait prendre aux riches pour donner aux pauvres, contre 48% qui pensaient le contraire. La proportion d'électeurs pro-pauvres, au sens de cette question, était de 56% en 2007 et de 60% en 2012. La baisse observée entre 2012 et 2017 peut s'interpréter comme le signe de la montée en puissance du discours sur la concurrence fiscale rendant impossible la redistribution, ou bien comme celui de la déception face au bilan du président socialiste. De façon générale, il faut souligner qu'il n'existe aucune question politique utilisant des formulations identiques des années 1950-1970 aux années 2000-2020, ce qui pose des limites évidentes à l'analyse des systèmes de croyances, d'où également l'attention particulière portée aux transformations des clivages en termes de diplômes, revenus et patrimoine, qui ont au moins le mérite d'être comparables dans le temps et l'espace. Pour résumer, À la fin des années 2010, les questions sur l'immigration d'une part et sur les riches et les pauvres d'autre part découpent chacune l'électorat en deux moitiés de taille comparable. Si ces deux dimensions du conflit politique étaient alignées, c'est-à-dire si les réponses à ces deux questions étaient parfaitement corrélées, l'électorat se découperait lui aussi en deux moitiés approximativement égales qui structureraient alors la confrontation électorale. Or, tel n'est pas le cas. Les réponses à ces questions ne sont quasiment pas corrélées du tout, si bien que l'électorat se partage approximativement en quatre quarts autour de ces deux questions, voire graphique 14.19. En 2017, 21% des électeurs peuvent être classés comme internationalistes égalitaires, pro-immigrés, pro-pauvres. 26% sont nativistes inégalitaires, anti-immigrés, pro-riches. 23% sont internationalistes inégalitaires, pro-immigrés, pro-riches. Et 30% sont nativistes égalitaires, anti-immigrés, pro-pauvres. On notera que le poids relatif de ces quatre quarts peut évoluer rapidement en l'espace de quelques années, en fonction notamment de l'état du débat politique, des événements marquants de la période et de leur représentation médiatique. Par ailleurs, l'imprécision des questions ne permet de dessiner que de grandes familles idéologiques aux contours flous et non des positions parfaitement précises ou structurées. Soulignons enfin que la taille limitée des échantillons implique que les légers écarts entre les quatre quarts ne sont pas statistiquement significatifs, en particulier en 2007 et 2017. Il se trouve que ces quatre quarts idéologiques se sont incarnés en quatre quarts électoraux presque parfaits lors du premier tour de l'élection présidentielle qui a eu lieu en 2017, voir tableau 14.1. Le bloc internationaliste égalitaire a regroupé 28% des voix au premier tour, tiré par la candidature de gauche radicale de Jean-Luc Mélenchon et de son mouvement LFI, la France insoumise. 20%. Complété par celle du candidat issu de l'aile gauche du Parti socialiste Benoît Hamon, 6%, et de deux candidats d'extrême gauche, 2%. Il est justifié de décrire ce bloc comme internationaliste égalitaire dans le sens où ce groupe composé de 28% des électeurs est, par comparaison aux trois autres groupes, à la fois celui qui considère avec le plus de conviction que la France pourrait être plus ouverte aux immigrés, seuls 32% pensent qu'ils sont trop nombreux contre 56% en moyenne, et celui qui est le plus favorable à la redistribution des riches vers les pauvres, 69% la juge souhaitable contre 52% en moyenne. On remarquera qu'il s'agit d'un groupe relativement diplômé, avec 39% de diplômés du supérieur, seul l'électorat Macron le dépasse d'une courte tête avec 41%, mais disposant de faibles revenus. 9% seulement ont un revenu mensuel dépassant 4000 euros, seul l'électorat Le Pen est plus pauvre avec 8%, et disposant de patrimoine encore plus faible. Seuls 48% sont propriétaires de leur logement, soit un pourcentage inférieur de 3 points à celui de l'électorat Le Pen. Le bloc internationaliste inégalitaire a regroupé 24% des voix autour de la candidature d'Emmanuel Macron, qui était issu de l'aile la plus pro-marché du gouvernement socialiste de François Hollande, dont il était, entre 2012 et 2016, le principal conseiller économique, puis le ministre de l'économie. Sa candidature s'est appuyée sur son mouvement, LREM, la République en marche, qui a reçu le soutien d'un mouvement de centre-droit, le Modem, et de la fraction la plus centriste et la plus aisée de l'ancien électorat socialiste. Ce bloc est internationaliste inégalitaire. D'une part, il est internationaliste au sens où il est moins fermé à l'immigration que la moyenne du pays. 39% des électeurs ayant voté pour Emmanuel Macron au premier tour considèrent qu'il y a trop d'immigrés en France, contre 56% en moyenne sur l'ensemble des votants. D'autre part, ce bloc est inégalitaire dans le sens où seuls 46% de ses électeurs sont convaincus par l'idée de prendre aux riches pour donner aux pauvres, contre 51% en moyenne. On notera qu'il s'agit à la fois du groupe le plus diplômé, 41% de ses membres sont diplômés du supérieur, et du groupe disposant de plus hauts revenus et patrimoine que la moyenne. 20% ont un revenu mensuel dépassant 4000 euros et 69% sont propriétaires de leur logement. Sur le plan économique et fiscal, sa principale politique en 2017-2018 a consisté à supprimer l'ISF, impôt sur la fortune, et l'impôt progressif sur les revenus du capital, le tout financé par une augmentation des taxes indirectes sur les carburants, à laquelle il a dû renoncer à la suite du mouvement des Gilets jaunes à la fin de l'année 2018. Voir chapitre 13. Le bloc nativiste inégalitaire a rassemblé 22% des voix autour de la candidature de François Fillon, 20%, auxquels ont été ajoutés trois petits candidats de droite, 2%. Il s'agit du bloc de droite bourgeoise et catholique traditionnelle, hostile à l'immigration, pour 62% de ses électeurs, et surtout violemment opposé à toute redistribution des riches vers les pauvres. 73% n'en veulent pas. Ses électeurs sont un peu moins diplômés, 36%, que ceux du bloc LREM Modem, mais ils ont des revenus 26% et des patrimoines 78%, encore plus élevés. Promis à la victoire avant de sombrer dans une affaire de corruption, Fillon a été dépassé par Macron. Une partie importante de l'électorat Fillon soutient depuis 2017 le gouvernement Macron, d'autant plus que la suppression de l'ISF est la mesure emblématique à laquelle une large fraction de la droite aspirait depuis longtemps, sans parvenir à la mettre en place. Enfin, le bloc nativiste égalitaire a regroupé 26% des voix autour de la candidature de Marine Le Pen au nom du Front National, 21%, et du candidat de la droite nationaliste et souverainiste, Dupont-Aignan, 5%, qui s'est rallié à la première lors du second tour. Cet électorat est plus favorable à la redistribution riche-pauvre que la moyenne, 61% contre 51%, mais il se caractérise surtout par sa très violente hostilité aux immigrés. 91% pensent qu'ils sont trop nombreux en France. Cet électorat est massivement moins diplômé que les trois autres. Le pourcentage de diplômés du supérieur y est plus de deux fois plus faible, et ses revenus sont également les plus faibles des quatre quarts. En revanche, il dispose de patrimoines un peu plus élevés que ceux de l'électorat Mélenchon-Hamon, mais beaucoup plus faibles que ceux des électorats Macron et Fillon. Il faut également ajouter que l'électorat comprend également un cinquième quart non représenté sur le tableau 14.1, celui des abstentionnistes, 22% des inscrits au premier tour. Ce groupe dispose de faibles diplômes et revenus, et surtout de patrimoines beaucoup plus faibles que les quatre quarts de votants. D'un point de vue idéologique, il est de loin le moins politisé et répond peu aux questions sur la redistribution et l'immigration. De l'instabilité de l'électorat en quatre quarts. Plusieurs remarques doivent être faites concernant cet électorat en quatre quarts. Tout d'abord, l'élection présidentielle de 2017 est clairement l'aboutissement d'un long processus de décomposition du système de clivage classiste et des catégories gauche-droite de la période 1950-1980. Les deux coalitions traditionnelles, la gauche électorale et la droite électorale, sont désormais divisées par des clivages sociaux et idéologiques profonds. Pour représenter cette complexité, une structuration de l'électorat en quatre quarts paraît plus adaptée qu'une vision binaire ou unidimensionnelle. On notera d'ailleurs qu'il est extrêmement inhabituel de compter quatre candidats obtenant chacun entre 20 et 24% au premier tour d'une élection, où seuls les deux premiers candidats sont qualifiés pour le second. En règle générale, le principe du vote utile pousse les électeurs à concentrer leur suffrage sur les deux candidats placés en tête dans les intentions de vote. On observe parfois des courses à trois, mais des courses à quatre aussi serrées sont rarissimes. Cela suggère que les divisions sociales et idéologiques de l'électorat en quatre quarts étaient tellement fortes qu'aucun des quarts n'était prêt à laisser sa place au nom d'une logique d'efficacité électorale. Au final, Macron et Le Pen sont arrivés très légèrement en tête du premier tour. Et le second tour a donc opposé le bloc internationaliste inégalitaire au camp nativiste égalitaire. Mais il est bien évident que les scores étaient tellement proches que n'importe lesquels des quatre premiers candidats du premier tour auraient pu se retrouver au second tour. Ce système en quatre quarts pourrait aussi évoluer en une structure en trois tiers. Cela serait le cas si la fraction la plus libérale économiquement de l'électorat Fillon était happée par le pôle Macron, alors que la fraction la plus anti-immigrée dérivait vers le pôle Le Pen, évolution qui ont déjà commencé lors des élections européennes de 2019. Ce système en trois tiers serait alors structuré pour simplifier autour de trois grandes familles idéologiques, le libéralisme, le nationalisme et le socialisme. Pour résumer, le libéralisme sacralise le marché et le désencastrement de l'économie. Le nationalisme y répond par la réification de la nation et des solidarités ethno-nationales, alors que le socialisme promeut l'émancipation par l'éducation et le savoir. Lors de l'élection de 2017, cependant, on voit que les frontières idéologiques entre les quatre quarts étaient suffisamment tranchées pour trouver des débouchés politiques qui leur étaient propres. On voit donc que le système de clivage politique est actuellement dans une situation de très grande instabilité. L'axe principal du conflit politico-idéologique est en cours de redéfinition et plusieurs trajectoires et bifurcations possibles sont a priori envisageables, en fonction notamment de la capacité de mobilisation et de conviction des différents groupes et discours en présence. Nous retrouvons une situation comparable dans le prochain chapitre avec les États-Unis. Par exemple, lors de l'élection présidentielle de 2016, le duel final aurait été fort différent si la primaire démocrate avait tourné à l'avantage de Sanders, pro-redistribution, et non de Clinton, centriste ou pro-business, suivant la perception de chacun. De même que dans le cas de l'élection française de 2017, il est difficile de dire quelle aurait été l'issue de ces duels et de ces délibérations qui n'ont pas eu lieu et qui, en tout état de cause, auraient profondément affecté les développements politico-idéologiques ultérieurs. Le point important est que l'élection française de 2017 constitue une sorte de point de rupture de l'ancien système de clivage, et en même temps que cette rupture se situe dans la continuité des évolutions antérieures, et en particulier dans la lignée de la montée en puissance de la gauche brahmane et du système d'élites multiples. De fait, sur les graphiques présentés dans ce chapitre concernant l'évolution à long terme de la structure socio-économique des électorats, j'ai défini la gauche électorale pour l'année 2017 comme les 52% de l'électorat qui ont accordé leur suffrage au bloc Mélenchon-Hamon et Macron, par opposition à la droite électorale, regroupant les 48% qui ont voté pour Fillon et Le Pen-Dupont-Aignan. Ces coalitions sont totalement artificielles. La confrontation de 2017 est beaucoup mieux décrite comme une structure en quatre quarts. Mais cette représentation permet précisément de constater que les 52% qui ont voté Mélenchon, Hamon, Macron en 2017 ne sont finalement que légèrement plus biaisés en termes de diplômes élevés et un peu plus nettement en termes de revenus et de patrimoine élevés que la gauche électorale de 2012 et des élections précédentes. Concrètement, ces 52% qui ont voté Mélenchon, Hamon, Macron en 2017 sont très proches des 53% qui ont voté au premier tour de l'élection présidentielle de 2012 pour les candidats de gauche, 44%, ou pour le candidat de centre-droit, Bayrou, 9%, et ne sont pas très différents des 52% qui ont voté Hollande au second tour de 2012. Il ne s'agit donc que d'un prolongement d'une tendance longue en cours depuis plusieurs décennies. Sauf que cet ultime prolongement a fini par mettre en évidence à quel point la nouvelle configuration à base d'élites multiples était instable. La partie la plus aisée de la gauche brahmane a opté pour le vote Macron, consommant ainsi la rupture avec la fraction moins aisée de l'ancienne gauche électorale qui s'est orientée vers le vote Mélenchon-Hamon. L'ancienne droite électorale, qui en réalité n'a jamais constitué une coalition électorale viable depuis l'émergence du FN et l'arrivée au premier plan de l'idéologie nativiste, apparaît quant à elle fracturée comme jamais entre un camp pro-marché et un bloc anti-immigré.